Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Dordogne sur lucien-georgelin.com.
Chut, on écoute la télé avec votre jardinerie Aste Vert, votre spécialiste jardin, alimentation animale et motoculture à Saint-Astier. C'est l'heure de Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Zoom Radio, la radio Hit and Style en Dordogne avec Alain Jeanne.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 18h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chut, on écoute la télé sur Zoom Radio.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Eh bien, on va consacrer une large partie à la sortie du film Jusqu'ici, tout va bien, qui sort mercredi dans les salles. Le nouveau film de Mohamed Hamidi après le carton de la vache. Eh bien, vous allez découvrir ce nouveau film avec Gilles Lellouche, Malik Bentala, Sabrina Ouazani, Anne-Elisabeth Blateau et plein d'autres comédiens. Mohamed Hamidi vient nous en parler dans un tout petit instant et Sabrina Ouazani et Anne-Elisabeth Blateau seront également avec nous. Et puis, nous parlerons également, eh bien, de Plus belle la vie puisqu'il y a pas mal de scoop et pas mal de choses qui vont s'annoncer pour les 15 ans de la série. Sébastien Charby, le producteur de la série, sera avec nous, notre invité exceptionnel. Ce soir, Camping Paradis, c'est un nouvel épisode où on va faire la connaissance de la sœur de Christian Parizeau, incarnée par Virginie Guillaume. Et bien justement, Christian Parizeau, c'est Patrick Parou, son interprète, qui sera avec nous pour nous en parler. Mathilde Lebrequier viendra fêter avec nous la fin de saison de Léo Mattei. La 6e saison tire sa révérence jeudi sur TF1, on en parlera évidemment avec elle tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, nous recevrons le couple de Ainsi Grand Soleil, le couple Bastide, qui nous en fait voir de toutes les couleurs, et c'est l'heure du divorce pour le couple cette semaine. Mais ils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Maël Mietton et Jérémy Bunster viendront évidemment nous en parler tout à l'heure. Mais juste avant de commencer notre spécial Jusqu'ici, tout va bien, on va tout de suite démarrer avec les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Allez, on démarre par les audiences de lundi dernier et ça se complique pour Zone Blanche hein, qui réunit à peine 1 614 000 téléspectateurs pour 7,3% de part de marché. Mais en tête, c'est Sam avec 18% de part de marché, 3 840 000 téléspectateurs. Mario Premier Regard sur M6 cartonne toujours autant, 2 513 000 téléspectateurs et 11,6% de part de marché. On va passer à mardi avec SWAT qui arrive toujours en tête des audiences, mais d'une courte tête avec 4 182 000 téléspectateurs et 18,4% de part de marché. En embuscade, c'est France 3 avec La Stagiaire, 4 112 000 téléspectateurs et 17,9% de part de marché. Petit démarrage pour M6 pour Le Sens de l'Effort, 8,4% de part de marché seulement et 1 871 000 téléspectateurs, et c'est un flop. Pour France 2 et Le Grand Oral, seulement 1 478 000 personnes étaient au rendez-vous. Et mercredi, eh bien, TF1 proposait un nouvel épisode d'Esprit Criminel, 15,5% de part de marché et 3 485 000 fidèles. Top Chef sur M6 cartonne, hein, 15,5% de part de marché également et quasiment 3 millions de téléspectateurs. Très beau score également hein, pour France 3 et Des Racines et des Ailes, 2 822 000 téléspectateurs. Et un nouveau flop pour France 2, Box 27 attire seulement 1 780 000, mais ce qui s'explique aussi parce que c'est une rediffusion. Jeudi, évidemment, c'est un carton pour Léo Mattei hein, qui arrive en tête des audiences. Sans grande surprise également. Allez, tout de suite, on va démarrer notre spécial Jusqu'ici, tout va bien. C'est parti, on accueille tout de suite Mohamed Hamidi dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné eh bien, de cette semaine, c'est le film Jusqu'ici, tout va bien, le nouveau film de Mohamed Hamidi qui est avec nous justement. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Après le succès colossal de La Vache, c'est un film que j'avais beaucoup aimé, qui avait été présenté à l'Alpe d'Huez et qui a eu d'ailleurs plein de prix à l'Alpe d'Huez il y a 3 ans. Vous revenez avec ce nouveau film. Alors une histoire, on peut planter le décor déjà pour commencer en quelques mots.
Alors Jusqu'ici tout va bien, en fait c'est l'histoire d'un petit chef d'entreprise qui s'appelle Fred Bartel, qui est interprété par Gilles Lellouche, qui vit confortablement à Paris et qui a un peu triché, qui a mis une adresse en zone franche, donc en banlieue, pour payer un peu moins d'impôts et qui en fait n'y est jamais allé. Et quand le film démarre, il se fait un peu griller par deux types du fisc qui lui disent bon voilà, vous avez illégalement mis une adresse en banlieue, vous avez détourné de l'argent en gros, hein, vous avez été exonéré d'argent, de taxes, etc. Donc soit vous nous remboursez 1 million et quelques euros, ou soit on annule tout mais vous allez directement vous installer à La Courneuve. Et donc il est obligé avec ses salariés de s'installer comme ça du jour au lendemain dans un quartier. Et là-bas, il trouve Malik Bentala, qui est le maître chien de la zone franche. Et il va s'appuyer sur lui pour un peu, voilà, pour trouver du lien, pour rassurer ses salariés. Et puis, petit à petit, il va rentrer dans un engrenage qui fait qu'il va rencontrer d'autres gens. Et finalement, tout ça va les amener vers des choses plutôt positives, quoi. Ils se craignent un peu. Au début, ils se regardent en chien de faïence. C'est deux milieux qui se connaissent pas. Et puis, qui vont apprendre à se connaître tout au long du film.
Alors, un très beau casting féminin aussi, Sabrina Ouazani, Anne-Elisabeth Blatteau, Camille Lou. Comment vous avez choisi votre casting justement et vos comédiens? Gilles Lellouche et Malik étaient vraiment, vous les vouliez dès le départ?
À la base, Malik, je vais parler de cette histoire il y a très longtemps, il y a plus de 8 ans je crois. J'avais vraiment envie de faire un film avec lui parce que Malik, il se trouve que je le mets en scène au théâtre et j'avais coécrit son premier one-man show qui s'appelait Malik Bentalas la raconte. Et puis après, pour jouer l'autre versant, j'ai rencontré Gilles ici, enfin je le connais depuis longtemps, mais on s'était parlé il y a 2 ans ici. Je l'avais vu sous le même toit et dans le sens de la fête aussi, où je trouve qu'il a une puissance comique, moi, très intéressante. Et c'est intéressant d'avoir un comédien qui joue un rôle sérieux, mais qui est capable de vriller comme ça, qui a pas peur du ridicule.
Et donc, je dis des fois, il a l'œil qui frise et on sent que, voilà.
Bah, par exemple, il y a une séquence où il dit pas un mot quasiment, où Mike est défoncé et présente le produit. Et il a des réactions formidables. Il subit en fait la scène, mais je suis beaucoup sur lui. Il y a beaucoup de plans de lui parce qu'il joue tout en fait. Il joue les réactions, la déception. Et puis la scène au début part très mal parce que son salarié dit n'importe quoi et est complètement défoncé. Et puis petit à petit, Mariama prend le relais, elle remonte la pente et on le voit reprendre vie comme ça. Et non, c'est deux comédiens hyper intéressants et leur rencontre donne quelque chose, je trouve. D'autant que c'est un duo inédit, donc moi ça m'a fait plaisir de les mettre à l'antenne, quoi. Enfin, je veux dire, de les mettre à l'écran plutôt.
Alors les fans de Plus belle la vie reconnaîtront aussi le jeune garçon qui joue le fils de Gilles Lellouche aussi, qui a une petite frappe un peu aussi, hein, quelque part, hein, qui est un peu voilà du côté riche de la face et puis qui finalement va trouver son compte à la Courneuve. Hein.
Ouais, Arthur, qui est joué par Grégoire Paturel, c'est un petit Parisien, comme beaucoup de petits Parisiens, qui aime bien s'encanailler, qui écoute du rap, qui porte des vêtements... qui s'identifie à la banlieue, je veux dire, c'est des codes aujourd'hui qui sont universels. Quand Gilles l'emmène à la Courneuve, au début il a des réactions... Enfin, il est un peu flippé, sa mère surtout est un peu flippée, puis finalement, il rencontre Harry, il passe du temps avec eux, il va jouer au foot, et ça crée des rencontres intéressantes, ouais. Ça oblige les gens à passer leurs frontières, c'est surtout ça.
Oui, c'est ça aussi, le principe du film, et de se rendre compte aussi qu'on fait tomber un peu les préjugés aussi, parce qu'il avait très peur d'arriver à la Courneuve. Voilà, vous verrez tout au long du film plein de choses qui font que voilà les peurs s'en vont peut-être petit à petit aussi. Karim Belkadra, qu'on peut citer aussi. Est-ce qu'il y a une scène qui a été particulière? Moi, j'ai senti une scène, celle du repas, chez les parents de Malik. Celle-là, vous avez dû la faire quand même quelques fois, parce qu'elle est vraiment mais énormissime.
Non, mais c'est vrai que c'est une très belle scène. Moi, j'aime beaucoup cette scène parce qu'elle est vraie. Elle est vraie, tout est vrai dans cette scène. L'appartement dans lequel on a tourné, c'est un appart dans lequel on n'a rien changé. Ça m'intéressait de montrer une maman qui fait un gratin dauphinois, par exemple, mais avec du piquant, avec du har, comme elle dit. Parce que c'est ça aussi, je veux dire, c'est pas parce qu'on est chez des Arabes qu'on va manger du couscous, quoi. Et puis cette rencontre de deux modes d'éducation, Gilles qui parle des problèmes qu'il a avec son fils, et puis le père de Malik qui dit « moi j'en ai 6 », et qui lui donne un peu ses méthodes, parfois un peu expéditives. S'il est pas sage, tu l'envoies au bled, mais ça arrive. Moi j'ai connu ça hein, quand on était plus jeune. Ceux qui déconnaient, quelques-uns de mes amis qui sont partis comme ça faire des petits stages au bled, ça les a effectivement remis droit. Et c'est effectivement la rencontre de deux mondes, mais dans la bienveillance et dans l'échange. Et les parents sont très touchés d'avoir Gilles qui est un peu celui qui a embauché leur fils, donc pour eux ils sont très reconnaissants. Et Gilles est très content aussi de rencontrer la famille de Samy. Et c'est à la fois touchant et à la fois drôle parce qu'ils se disent des choses qu'on n'a pas l'habitude de se dire. Et forcément, c'est ce qui crée la comédie.
Est-ce qu'il y avait une scène que vous redoutiez à l'écriture ou tout simplement à la mise en scène où vous vous êtes dit, voilà, cette scène-là, voilà, on va la faire, mais on sait que ça va être compliqué. Et finalement, elle s'est bien passée ou justement une autre scène où vous pensiez qu'il se passe bien, finalement, qu'il ne s'est pas bien passé du tout.
Techniquement, la scène du chien était une scène compliquée. Parce qu'à partir du moment où on a des animaux...
Avec Sultan.
Exactement, avec Sultan qui arrive, qui saute sur le capot de Gilles, avec Malik, qui doit se faire courser par le chien, rentrer dans la voiture, toute la discussion. Forcément, techniquement, quand on a un chien sur le plateau, je la redoutais beaucoup. On a beaucoup travaillé avec un dresseur. J'avais déjà fait un film avec une vache, donc je suis habitué. Et d'ailleurs, je travaillais avec le même dresseur, qui s'appelle Manu Sanra, et qui vient de Fauna Film. Mais effectivement, ouais, c'est une scène assez compliquée, parce que il fallait jouer une scène de comédie avec un animal qui mettait la pression tout le temps. Et je la redoutais beaucoup, on l'a beaucoup travaillé, beaucoup découpé. Et puis aussi la scène de la fin, le braquage, enfin je vais pas tout dévoiler, mais la scène de la fin, voilà, je voulais quelque chose d'hyper rythmé, d'hyper hyper punchy comme ça. Je savais que j'allais le monter en musique et j'avais besoin de plein de plans. J'ai beaucoup travaillé sur le découpage, sur les plans précis que je voulais pour alimenter, pour faire avancer comme ça cette dernière scène, ce dénouement final.
Très beau casting, c'est le film qu'il vous faut découvrir mercredi dans les salles. Jusqu'ici tout va bien, Sabrina Ouazani, Hugo Becker. On y retrouve évidemment Gilles Lelouch, Malik Bentala, Camille Hilou et toute une pléiade de comédiens incroyables.
Non, vraiment des comédiens formidables avec qui on a vécu un tournage formidable. Et aujourd'hui je suis très heureux de les retrouver à l'écran et je suis très heureux qu'ils parlent aux gens.
Alors, juste un petit mot avant de se quitter aussi. Les Fouteuses, deuxième film dans l'année. Comment on fait en tant que réalisateur pour sortir deux films dans une année?
Ouais, je sais pas comment on fait. Je l'ai pas encore fait. Mais je les ai tournés les deux, effectivement. Bon, c'est pour des raisons de calendrier, hein. J'ai pris le temps de l'écriture pour les deux. J'ai mis 3 ans. Donc, je passais en gros 1 an et demi sur chaque film à l'écriture. Et pour moi, le temps le plus important est le temps de l'écriture. Voilà, de la maturation des idées. Et donc, j'ai écrit ces deux films. Et voilà, il se trouve que pour des raisons notamment de calendrier d'acteur, l'autre film, Les Fouteuses, c'était avec Kad Merad et de disponibilité. Il a fallu que je le casse dans la même année. Donc ça a été beaucoup d'organisation, beaucoup de travail, beaucoup de prépa, etc. Mais on l'a fait, et effectivement ils vont sortir de manière un peu rapprochée. Jusqu'ici tout va bien, sort là, le 27 février. Et Les Fouteux, je ne sais pas encore, mais probablement deuxième semestre.
Eh bien on vous souhaite en tout cas plein de belles choses hein, pour ces deux films. Merci Mohamed d'avoir été avec nous. Et puis n'oubliez pas, Jusqu'ici tout va bien, c'est mercredi au cinéma, on va écouter la bande-annonce. Merci, à bientôt.
Merci.
Vous devez à l'administration fiscale 1 750 000 euros.
Faut que je les paye. On déménage.
Moi, je te suis au bout du monde.
La Courneuve.
Arrête quand même.
Oh, 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 tuteur.
Vous êtes quoi, là?
Je sais pas, il me fait peur, lui aussi, là.
Vous êtes maître chien, vous avez peur des chiens.
Donnez-lui ça.
Donnez-lui plutôt.
C'est pas pour vous.
Je vous présente Samy, qui a la gentillesse de vous faire visiter la Courneuve.
Elodie.
Samy.
Bon. Samy, on y va? Il devait avoir au moins 4 nouvelles recrues dans la zone franche.
Ouais, j'ai besoin de monde, là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail.
Un DUT informatique, institut technologique, master en engineering informatique. Qu'est-ce que vous faites chez McDo, je comprends pas.
C'est les seuls qui m'ont pris, en fait. J'ai envoyé des centaines de CV, mais à part les stages, j'ai rien trouvé.
Hey, attends, ouais. Comme t'as trouvé du travail, t'as acheté des chemises.
Ah, enfin, je peux pas.
2 euros.
Ah ouais.
2 euros. Voilà. Regarde, rouge, bleu, jaune, vert.
Magnifique.
On a un petit souci avec la banque. Ils veulent pas nous suivre.
Mais c'est pas un petit souci, ça.
Ah oui, c'est très très grave.
Je sais pas d'où il vient cet argent.
Quand tu vas à la banque, toi, tu demandes d'où il vient le pognon? Non.
Maintenant, c'est une fille, vous plaît. Vous pouvez faire ce son-là. Viens voir.
Quand on est arrivé ici, on pensait que ce serait compliqué. Enfin, moi, je pensais que ce serait compliqué. Et finalement, c'est formidable.
Alors, la cohabitation, ça se passe bien?
Oui. Mais juste attention à pas laisser traîner nos affaires, quoi.
Allez, on va continuer à parler de Jusqu'ici tout va bien, le film qui sort mercredi dans les salles de Mohamed à midi. Et juste après la bande-annonce, eh bien, nous allons avoir justement Sabrina Ouazani et Anne-Elisabeth Blateau qui nous rejoignent pour continuer à parler du film. Mais juste avant, on va marquer une pause de 3 minutes, mais elles sont déjà là. Vous restez là, les filles. Hein.
Ah bah bien sûr qu'on reste, à tout de suite, tout le monde.
Grave, grave.
Allez, à dans 3 minutes.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite.
On est vraiment bien, sans
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé. Eh bien, on va continuer à parler de Jusqu'ici tout va bien. Mohamed nous a quittés, mais j'ai gagné au change, hein, puisque. Ah bah oui, Anne-Elisabeth Blateau et Sabrina Ouazani qui nous ont rejoints, deux habitués de l'émission. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour tout le monde, bonjour à toi. Bonjour.
Alors, on a planté le décor avec Mohamed, on est rendu à la Courneuve, on a parlé un petit peu de tout ça. Moi, j'aimerais déjà rentrer un petit peu dans le détail de vos rôles à toutes les deux. Sabrina.
Alors moi, j'interprète le rôle de Leïla, une jeune fille qui est un peu le bras droit de Fred, donc interprétée par Gilles Lelouch, qui est une nana au caractère bien trempé. Elle n'a pas envie de retourner en banlieue. Elle n'a pas envie, elle y a grandi, elle a subi... Enfin, elle a eu pas mal de problèmes. Donc ouais, elle a certaines appréhensions et elle part avec certains a priori, ouais.
Alors, on sent le personnage très sérieux aussi, très carré. C'est un peu ce que j'ai ressenti.
Ouais, c'est vrai. Bah, c'est-à-dire que c'est une bosseuse. Je pense qu'elle s'est donné les moyens pour y arriver, que ça n'a pas été forcément facile. Effectivement, ça a été la belle rencontre avec Fred et donc avec Happy Few. Et puis, je pense qu'elle est consciente aussi que, effectivement, quand on a galéré pour réussir, tout simplement pour réussir, c'est précieux. On en prend soin, donc on préserve tout ça. On préserve, donc on est forcément professionnel et très carré. C'est une nana assez entière aussi, quoi.
Alors là, c'est l'antipode, Anne-Elisabeth, avec ton personnage un peu lunaire, moi j'adore.
Alors, ce qui est très marrant, c'est que quand on dit un personnage un peu lunaire, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit comptable, mais elle est comptable. Elle est comptable chez Happy Few. Et effectivement, par rapport à Layla qui se dit, bah, j'ai mon taf, je le fais sérieusement, je suis pro, ça déconne pas du tout. On sent dès le départ que elle déconne pas avec le taf. Et Sidonie non plus, hein, parce que je pense qu'elle serait pas comptable dans cette boîte et le personnage de Gilles l'aurait pas gardé si elle était branque. Mais elle a une vision de la vie quand même qui est un petit peu faite de philosophie zen, d'astrologie, de numérologie, de méditation, de trucs un petit peu, voilà. Et très bizarrement, elle passe sa vie dans les chiffres. C'est un personnage de comédie assez intéressant.
Alors, question que j'ai envie de vous poser, parce que maintenant qu'il est parti, hein, il est avec nous il y a 3-4 minutes, mais il est comment alors, Mohamed Hamidi, en tant que réalisateur?
Mohamed, le problème, c'est qu'on peut pas en dire du mal, quoi. C'est-à-dire, c'est un soleil. C'est un soleil sur un plateau. Et c'est quelqu'un, qui sait où il va, qui sait quelle histoire il veut raconter, qui bosse son scénario tous les soirs, il regarde les rushs, le matin, les textes, voilà, il va changer des choses, il réfléchit tout le temps à son film, il sait très bien ce qu'il veut en faire, il y réfléchit tout le temps, et il ne fait jamais peser une pression quelconque aux acteurs. S'il a une pression sur lui, il se la garde, et jamais nous on ressent ça, et c'est un très bon directeur d'acteurs, et voilà, il a su faire de ce film, qu'aurait pu être un film comme on en a vu plein, un film très cliché sur la banlieue, il a su en faire quelque chose de beaucoup plus fort que ça.
Et oui, bah effectivement, pour reprendre sans paraphraser ce que disait Anne-Elisabeth, effectivement, c'est quelqu'un d'adorable, de très agréable, de très doux, de très rassurant, de très apaisant, et ça fait du bien de travailler comme ça, sans tension, et en même temps, effectivement, avec quelqu'un en qui on a confiance, parce que au-delà de l'expérience qu'il a, on le sent, lui, qu'il a bien mûri la chose, et qu'effectivement, il est quand même sans cesse en train de se remettre en question, mais pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire toujours à chercher à s'améliorer, à améliorer même les scènes qu'il a écrites, les dialogues, les directions d'acteurs, à aller chercher toujours plus loin. Et c'est trop bon parce que ça nous challenge aussi. Donc c'est un super réalisateur avec une magnifique ambiance.
Alors on a déjà des fois du mal pour un acteur à tourner deux fois avec le même réalisateur, mais alors deux fois dans la même année. Là, tu fais très fort, Sabrina, cette année.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis assez chanceuse, pour le coup, même pas juste assez, je suis très chanceuse.
Parce que tu seras dans les photos aussi, dont on parlait avec Mohamed il y a quelques instants.
Ouais, effectivement, ça a été une belle surprise. Je m'y attendais pas vraiment, en fait, qu'il me propose ensuite ce film. J'en avais entendu parler. Le sujet m'intéressait vachement, cette équipe de football féminine. J'avais adoré tourner avec Mohamed, donc j'avais hâte de le retrouver et j'espérais, en tout cas, du moins le retrouver. Je savais qu'il préparait ça, on le savait tous déjà parce que il enchaînait presque avec la préparation des footeuses juste après Jusqu'ici tout va bien. Au fond de moi, j'espérais parce que j'adore ses films et j'adore le foot, j'adore le sport. Donc que demande le peuple? J'ai envie de dire c'est moi, pense à moi. Bon, mais bien évidemment, chose que je n'ai jamais faite. Mais du coup, oui, ça a été une très très belle surprise quand ensuite, très peu de temps après la fin du tournage de Jusqu'ici tout va bien, il est venu me proposer ce merveilleux personnage de Sandra que vous découvrirez effectivement en cours d'année.
Bientôt dans l'année. On va finir par votre plus belle scène, votre plus beau souvenir de tournage, toutes les deux, Anne-Elisabeth. Je me souviens d'une scène drôle, moi, dans la pharmacie avec Karim Belkadra, qui a l'air très drôle, en tout cas, à l'écran, mais quelle est la scène pour toi, en tout cas, qui t'a fait le plus rire?
Non, moi, j'ai vraiment adoré mon personnage tout le temps, dans toutes les scènes. C'est vrai que on a des souvenirs. Je dirais que le film, quand même, c'est pas un film choral parce qu'il est porté principalement par Malik Bentala et par Gilles Lelouch magnifiquement, mais il y a quand même, on a quand même, on sort du film en se disant qu'on a vu quand même un film choral aussi, qu'on a vu un groupe, quoi. Et je crois que nos meilleurs souvenirs finalement, c'est quand on avait les scènes tous ensemble dans c'est pas des souvenirs égoïstes de plaisir de comédienne, c'était vraiment l'ambiance qu'il y avait entre nous, et ça c'est vraiment ce qui reste comme souvenir du film, je trouve. C'était cette ambiance incroyable, ça a pris tout de suite, on était collègues depuis des années, quoi, chez Happy Few, ça. Et entre les prises, c'était formidable. À la cantine, c'était formidable. Enfin, je veux dire, c'était...
Partout, c'était génial.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Elle a raison. C'est difficile de donner une anecdote, un moment, parce qu'on s'est tellement tous très bien entendus qu'effectivement, c'était...
c'était du début jusqu'à la fin, de la lecture ou spontanément, instantanément. Alors j'ai quand même des souvenirs forts de cette nuit glaciale où on a tourné de 3h du matin jusqu'à 8h du matin pour cette scène finale, cette belle scène finale que vous découvrirez dans le film, Place de l'Opéra, où c'était la nuit, ils appelaient ça la nuit glaciale parce que c'était la nuit la plus froide qu'on ait eue depuis 40 ans. La plus froide qu'on ait eu depuis 40 ans à Paris. Et nous, on choisit cette date-là pour tourner dehors, dans des costumes où on n'est pas forcément tout emmitouflé, mais quand même, ça va, on s'en est bien sorti. Et donc, on était entre rire nerveux, de froid, de... Mais merde, non, normalement, on est au fond de notre lit.
Au maquillage à 2h du mat, hein, quand même.
C'est, voilà, c'est ça, c'était complètement fou. Et fallait nous voir, on avait des dégaines, mais tout le monde, hein. Il n'y a pas genre Gilles qui était classe, qui était bien en bombardier. Non, on était tous en peignoir, doudoune, ouais. Plaid, bouillotte et compagnie, chaufferette, je te raconte pas.
Je crois que j'avais 6 collants en laine. C'est-à-dire que, j'avais des jambes, mais comme un...
On avait pris 2 tailles avec les couches. Ouais, c'est vrai. D'épaisseur. Non, mais on s'est éclaté. On s'est vraiment éclaté.
Ben vous allez voir le résultat à l'écran, c'est mercredi dans les salles. Jusqu'ici, tout va bien. Le nouveau film de Mohamed Hamidi. En attendant, on te retrouve dans les footeuses Sabrina dans le courant de l'année. Deuxième film de l'année pour Mohamed. Et puis, bien sûr, Anne-Elisabeth, on te retrouve tous les soirs dans la série quotidienne numéro 1 aux 4 millions de téléspectateurs. C'est Scènes de ménage sur M6. Merci.
C'est élu meilleure série de l'année, là.
Ouais.
Ça y est, tu peux y aller. Tu peux te la péter.
Merci beaucoup.
Pour ce moment, c'était bien agréable.
Samy, on y va? Vous devez avoir au moins 4 nouvelles recrues dans la zone franche.
Ouais, j'ai besoin de monde, là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail.
Un DUT informatique, institut technologique, master en engineering informatique. Qu'est-ce que vous faites chez Mano, je comprends pas.
C'est les seuls qui m'ont pris, en fait. J'ai envoyé des centaines de CV, mais à part les stages, j'ai rien trouvé.
Hey, attends, ouais. Comme t'as trouvé du travail, t'as acheté des chemises.
Ah, passe-toi par
contre. 2 euros!
Ah ouais!
2 euros! Voilà! Regarde, rouge, bleu, jaune, vert!
Magnifique.
On a un petit souci avec la banque. Ils veulent pas nous suivre.
Mais c'est pas un petit souci, ça.
Ah oui, c'est très très grave.
Je sais pas d'où il vient cet argent.
Quand tu vas à la banque, toi, tu demandes d'où il vient le pognon?
Non.
Maintenant, c'est une fille, vous plaît. Vous pouvez faire ce son-là. Viens voir.
Quand on est arrivé ici, on pensait que ce serait compliqué. Enfin, moi, je pensais que ce serait compliqué. Et finalement, c'est formidable.
Alors là, la cohabitation, ça se passe bien?
Oui.
Fais juste attention à pas laisser traîner nos affaires, quoi.
Indiscrétion, scoop, news, tout de suite, l'infomédia.
Allez, dans l'infomédia, cette semaine, en bref, le jeudi 14 mars à 21h sur Sister, Élodie Gossuin présentera un nouveau magazine intitulé « Les vacances préférées des Français ». Alors que ça soit des vacances en paquebot, eh bien nous suivrons parmi 5500 passagers, Fabrice et ses enfants, ainsi que sa mère. Ce sera pour eux une grande première à ne pas manquer. Qui veut gagner des millions a fait récemment son retour sur TF1. Vous le savez qu'un nouveau présentateur, Camille Combal, eh bien, nous aurons le plaisir de revoir Qui veut gagner des millions en quotidienne. Le programme sera diffusé probablement avant demain, nous appartient à 18h30. La production en ce moment qui produit jeu est d'ailleurs à la recherche de candidats à travers toute la France. C'est le retour de la série Les Bracelets Rouges le lundi 11 mars pour 8 nouveaux épisodes inédits. Vous avez été bouleversés par cette série. Les comédiens aussi, puisque des petits nouveaux vont venir s'ajouter au casting. L'humoriste Jarry, par exemple, et les comédiennes Horatica, Christiana Reali et Natacha Régnier, Mathieu Madénian et Pascal Elbé feront bien sûr leur retour. Michael Youn, Camille Lou et Elsa Lugini, eux, feront juste une petite apparition. Cette saison 2 comptera donc 8 épisodes. Et ces 8 se lancent dans la grande fiction de Primetime. C'est une saga de printemps qui nous attend dès le mardi 12 mars. À 21h, C8 lancera donc Les Ombres Rouges au casting. On retrouvera Nadia Farès, Antoine Duléry, Manon Azem ou encore Lannick Gautry. Et le vendredi 15 mars à 21h, TF1 diffusera la nouvelle saison de Koh-Lanta, présentée par Denis Brognard. La nouvelle édition de Koh-Lanta, qui a été tournée cet automne au Fidji, sera de retour pour une 19e saison. Cette nouvelle édition offrira au public un dépaysement total. Et pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, les aventuriers vont avoir la surprise de commencer par la fin. Ils débuteront par la mythique épreuve des poteaux. Lors de cette épreuve, ils ont un objectif, faire partie des 3 meilleurs. En effet, les 3 derniers à rester le plus longtemps sur les 21 poteaux pourront prendre en main leur destin et celui de leur tribu, puisqu'ils seront proclamés chefs des rouges, des jaunes ou des bleus. Le dimanche 10 mars à 21h, Énergie 12 proposera une soirée exceptionnelle avec deux documentaires pour vous faire vibrer au rythme des services d'urgence. Ces deux documentaires exceptionnels présentés par Jean-Marc Morandini vous raconteront le quotidien des services d'urgence, des pompiers aux policiers en passant par les hôpitaux et même les services vétérinaires. Et TF1 a annoncé qu'elle allait adapter The Masked Singer, le chanteur masqué, une émission de divertissement musical sud-coréenne à très grand succès dans la version américaine lancée en janvier, a réalisé un carton d'audience dans cette compétition musicale d'un nouveau genre, très décalé par rapport aux habituels télécrochés à la The Voice, des célébrités dont l'identité est tenue secrète vis-à-vis du public comme des présentateurs, du jury et des autres participants doivent se livrer à des duels en chansons. Ils seront entièrement revêtus de déguisements complètement loufoque et leur voix sera donc trafiquée. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'infomédia de cette semaine.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler de Camping Paradis. Hein. C'est notre coup de cœur télé de ce soir sur TF1 puisque c'est un épisode inédit qui nous attend en ce 25 février. Et nous avons eh bien retrouvé pour vous, évidemment, le campeur préféré des Français, comme j'aime bien l'appeler, comme sur le tournage d'ailleurs, c'est Patrick Parrou, alias Parizeau.
Voilà, Christian Parizeau, voilà.
Merci d'être avec nous, Patrick. Ça me fait super plaisir de vous avoir une nouvelle fois. Ça continue, le succès de Camping Paradis ne se dément pas. Les épisodes de cette nouvelle saison, en plus il y aura des choses qui vont être merveilleuses, avec encore des épisodes aussi réalisés par Laurent Ronac. On s'amuse toujours autant?
Absolument, oui. Puis en plus, dans l'épisode de Laurent, qui effectivement c'est un peu basé sur Retour vers le futur, c'est-à-dire qu'il se retrouve tout d'un coup en 1975, c'est un épisode particulier parce qu'on reste toujours dans le décor mais le transformé complètement avec les voitures d'époque, les R16, les 404, les pattes d'EF. Moi, effectivement, je joue mon père dans cet épisode. Mon père qui, je pense que le fils tient du père d'ailleurs, et qui est professeur de physique-chimie. Voilà. Et qui va aider Tom, qui se retrouve comme ça après une chute en 1975, qui va l'aider à retourner en 2019.
Et donc dans l'épisode de ce soir, mon cher Patrick, on va enfin connaître la sœur de Parizeau. C'est Virginie Guillaume qui va jouer ce rôle. Hein.
Voilà, donc j'ai une très jolie sœur qui précise quand même que c'est ma demi-sœur, ce qui permet aux autres de comprendre une certaine différence physique, quoi. Voilà. Voilà, donc Sylvie effectivement joue ma demi-sœur, qui vient au camping, qui a besoin de se remonter le moral, et moi je m'occupe d'elle comme d'un grand frère, quoi. C'est une relation plutôt tendre, donc une couleur un peu différente de Parizeau, ce qui me fait plaisir de jouer quelque chose de différent.
Il aura toujours un petit peu de mauvaise foi quand même.
Oui, il est jamais de mauvaise foi en fait. Je trouve qu'il a toujours raison, il a toujours ses raisons d'en vouloir aux organisateurs, etc. Pour lui, c'est pas de la mauvaise foi, non, il est persuadé d'avoir raison.
Et il a raison, c'est pour ça qu'il est tant aimé, d'ailleurs, des spectateurs. Comment expliquer cet amour des spectateurs pour ce personnage qui, du coup, vous a permis d'intégrer tous les épisodes, finalement?
Oui.
C'est le campeur à l'année.
Voilà. Peut-être qu'il est finalement assez français. Peut-être ce qu'on appelle le français râleur, voilà, dans les clichés. Je crois qu'il y correspond. Et finalement, oui, les gens qui, à un moment donné, disent vraiment ce qu'ils pensent, sans filtre, même si c'est maladroit, ils sont appréciés, quoi. Ils sont... on n'est pas dans la pensée unique, comme on dit.
Le meilleur moment pour vous de cet épisode avec Virginie Guillaume? La meilleure scène?
Alors, il y a une scène quand même qui est assez... c'est que je joue à un moment donné ma cousine. Parce que naturellement, Patrick Guérineau, qui joue Xavier, va tomber amoureux de ma demi-sœur, je le comprends tout à fait. Donc, il est fou amoureux d'elle. Et puis, malheureusement, ça ne se conclut pas pour lui. Et comme je le vois assez désespéré, je lui dis, allez, vous inquiétez pas, là c'était ma demi-sœur, mais j'ai ma cousine qui vient. Donc je vais vous présenter à ma cousine, on va avoir une petite relation Skype avec elle, et vous allez voir, en plus elle est célibataire, elle va vous plaire. Voilà, j'en dis pas plus.
Pour découvrir un pan de la famille, eh bien, de notre campeur préféré, le campeur préféré des Français, eh bien, retrouvez Camping Paradis. Eh bien, cet épisode inédit, c'est ce soir et c'est à partir de 21h sur TF1. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous une nouvelle fois.
Je t'en prie. À bientôt.
À bientôt.
Alors, monsieur Parizeau, comment ça va ce matin?
T'as moyennement quand je vois l'état de votre camping. Ah, regarde-moi ce foutoir.
Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air stressé, monsieur Christian.
Non, pas du tout, mais c'est juste que ma sœur vient passer quelques jours ici et j'aimerais bien que le camping ait un certain standing quand même.
Bah, en même temps, votre sœur, c'est bizarre, vous ne nous avez pas prévenu.
Je ne savais pas et ça s'est décidé au dernier moment. Bon, maintenant, s'il faut vous envoyer une lettre recommandée 3 semaines avant pour espérer être bien reçu dans ce camping, il faut le dire. Hein.
Mais je ne savais pas que vous aviez une sœur, Christian.
Elle s'appelle Bérangère, j'adore. Elle est comme moi, douce, fragile, surtout en ce moment. parce qu'elle sort d'une rupture difficile. Alors donc, je compte sur vous pour lui réserver un accueil 5 étoiles. Mmh. Hein? Serviabilité, délicatesse, gentillesse. Enfin, pas comme d'habitude, quoi.
Et dans nos coups de cœur télé, eh bien demain soir sur France 5, un documentaire inédit vous sera proposé sur les femmes du Nord, dans la veine du film Les Invisibles de Louis-Julien Petit. Et eh bien là, c'est un documentaire d'Olivier Delacroix qui nous sera proposé. Je vous en propose tout de suite un petit extrait en bande-annonce. Écoutez.
On a toujours peur que ça revienne un jour.
Quand on tombe dans la précarité, dans les Hauts-de-France, la solidarité peut vous remettre debout.
Il faut accepter quelqu'un qui vous tend la main.
C'est une deuxième vie qui commence. Mmh. Elle est meilleure que la première, en fait.
Olivier Delacroix rencontre Stéphanie, Pépé, Elisabeth et Karine.
Je suis pas seule. En réalité, c'est toujours la quête du bonheur qu'on cherche.
Femmes du Nord, quand la vie est un combat, un documentaire suivi d'un débat, mardi à 20h50 sur France 5.
Et mercredi, France 2 proposera un téléfilm inédit avec Sarah Forestier, Disparition inquiétante. Alors ça démarre fort, hein. On est à Strasbourg, au bord de la cathédrale, et d'un seul coup, eh bien, une femme qui accompagne 9 enfants est assassinée en pleine ville. Les 9 enfants disparaissent. Et là, je vous propose tout de suite eh bien, un petit extrait.
Françoise Stoller, 56 ans, institutrice à l'école protestante Luther. Elle accompagnait un groupe de 9 élèves de CM2, 4 filles et 5 garçons au moment de l'agression supposée. Décès immédiat suite à un hématome compressif au niveau du tronc cérébral, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà, torsion de la nuque en gros, mais on en saura plus au moment de l'autopsie.
14h, il me faut une réquisition.
Vous l'aurez, vous embarquez le corps immédiatement à l'IML, hein, je veux pas de panique ici.
Bon, vous allez me faire une liste de tous les témoins, d'accord ? Et je voudrais récupérer aussi, en plus de la vidéo surveillance, toutes les photos qui ont pu être prises par les gens.
Il y a du monde, hein.
Ah oui, enfin, ça fera du travail, ouais.
Allez, on va continuer à parler de Léo Mattei. Hein. Vous savez, toutes les semaines, voilà, ça déroule depuis 2 semaines, cette 6e saison inédite. Et c'est Mathilde Lebrequier qui nous rejoint cette semaine pour nous parler de ce final. En même temps, bonjour Mathilde.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on a été tenus en haleine pendant 2 semaines. Encore jeudi sur TF1, c'est le final avec ce 5e et ce 6e épisode. Alors, toi Mathilde, t'es arrivée depuis la saison dernière en renfort. Puisque avant, c'était Samira Lachap qui était la compatriote de Jean-Luc Reichmann. Et maintenant, elle est dans Demain nous appartient.
Voilà, exactement. Mais en fait, comme Léo Mattei a débarqué à Marseille dans ma brigade à moi, il est devenu mon collègue. Et voilà, maintenant, on est un binôme.
C'était un peu la saison de tous les changements, la saison 5, finalement. Là où il a retrouvé sa fille.
Ouais, il a retrouvé sa fille. Il y a Jonathan qui est le seul qui reste de Paris et qui a rejoint la brigade de Marseille. Et donc la brigade a été complètement recomposée, et c'est une chouette équipe.
Des histoires très fortes à chaque épisode, on est vraiment pris à chaque fois aux tripes dans ces histoires d'enfants. Est-ce que des fois c'est difficile, est-ce qu'on est touché personnellement aussi en tant qu'actrice de voir des histoires, même si c'est de la comédie, mais des fois on peut être vraiment plus que touché?
Ah bah complètement, là celui qui vient de passer avec le petit enfant qui était enlevé
la semaine dernière,
voilà. Il jouait très bien en plus le môme, donc c'était complètement poignant de le voir.
Avec ses grands yeux verts là.
On n'avait qu'une envie, c'est de le câliner. Il était super comme petit comédien. Puis il y a l'histoire avec Héloïse qui est très touchante, qui touche beaucoup Léo Mattei, et du coup ça se répercute sur tous les membres de l'équipe. Et puis on a nos enfants à nous aussi. Moi, Olivia, j'ai un fils dans l'histoire. Et il est touché aussi par ce qui arrive à Héloïse, donc j'en dirai pas plus. Mais bon, toutes ces histoires nous touchent. Et puis en plus, Jean-Luc et Nathalie ont conçu cette série spécialement pour les enfants, comme ils disent, pour faire de la prévention. Donc c'est obligatoirement que ça nous touche, parce qu'on est tous concernés, quoi.
C'est ce qu'on disait, c'est des histoires qui peuvent arriver à n'importe qui, à des proches. C'est une série qui est nécessaire, qu'on peut regarder vraiment tous en famille, que nous, on vous conseille même de regarder tous en famille, même si des fois il y a des moments durs, c'est nécessaire.
Ouais. Moi, je pense que ma fille va la regarder. Bon, évidemment, elle aura pas le même œil en voyant sa maman, ça va être... voilà, mais oui, je pense que c'est une série qui est accessible au jeune public. Ouais.
Alors, quand vous êtes arrivé dans la saison 5, hein, pour le coup, est-ce que vous aviez déjà regardé un petit peu les 4 autres saisons pour vous imprégner un peu des histoires? Comment tu t'es préparée, toi, Mathilde?
Alors, je me suis pas préparée en regardant les épisodes précédents, j'avais vu quelques extraits, mais j'ai pas voulu regarder puisque ce qui était fait n'était plus à faire. Enfin, voilà, ils changeaient de milieu, moi je... Voilà, j'avais rien à voir avec le milieu de Paris, donc je préférais pas. Et puis, tu te prépares sur un rôle comme sur un autre, c'est-à-dire en prenant le texte, en essayant de créer ton personnage, créer sa vie antérieure, mais pas forcément en regardant ce qui a été fait avant. Non. Voilà, une flic, une fonceuse, une jusqu'au boutiste, voilà. Mais c'était un travail personnel qui n'avait rien à voir avec l'ancienneté de la série.
faut avoir la forme quand même, parce que moi je t'ai vu faire une espèce de course-poursuite dans un épisode la semaine dernière. Faut avoir la pêche quand même, hein.
Je saute bien sur les toits, hein. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré, et je veux bien encore plus d'action.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'action aussi, donc il y a beaucoup de course-poursuite, faut avoir la forme, faut y aller, c'est une série qui est très physique, hein, aussi, hein.
Ben oui, puis même en voiture, hein, quand on conduit les voitures, ça se voit pas forcément beaucoup à l'image, mais dans celui de la semaine dernière là, quand on passe sur le port, c'est des petites ruelles. Faut pas qu'il y ait un piéton qui débarque, hein, franchement. Ouais. Faut suivre le rythme. Hein, on fait pas deux fois la prise. Hein.
Le tournage à Marseille.
Bah super, il fait beau, même trop beau parfois. Excusez-moi les Marseillais, mais parfois on crève de chaud avec nos costumes en cuir, on est en sueur. C'est pas glamour, mais je vous assure qu'on en bave quand même. Il fait tellement beau à Marseille.
Bon, la saison 6 se termine jeudi, hein, sur TF1. Est-ce que la saison 7 est déjà sur les rangs? Est-ce que, évidemment, Mathilde, toi, t'as envie d'y retourner très vite?
Oui. Évidemment que j'ai envie d'y retourner. Je pense qu'on va y retourner très vite. Théoriquement, si tout va bien, en mai, juin, septembre, octobre, on retourne.
Ouais. Il y a encore de belles histoires, j'en suis sûr. 6 épisodes, a priori, la prochaine saison?
Je crois que c'est ça, ouais.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mathilde?
Eh ben, encore plein d'épisodes de Léo Mattei, du théâtre, parce que je fais du théâtre à Paris.
J'ai demandé en dernier, peut-être des beaux rôles qui t'attendent en 2019. Dans quoi on va te voir d'autre que Léo Mattei?
Alors, à la télé, je ne sais pas encore. Il n'y a que des projets et tant que c'est pas signé, je peux rien dire. Mais sinon, au théâtre à Paris, là, je joue en ce moment au studio Héberto, une pièce qui s'appelle J'admire l'aisance avec laquelle tu prends des décisions catastrophiques. Voilà. Jusqu'au 10 mars. Et puis, sinon, pour le reste, je sais pas, c'est en projet, donc, on verra. Mais je pense qu'il y en aura d'autres, du théâtre et des séries.
Eh bien, on va écouter un petit extrait, hein, du 5e épisode. C'est le premier que vous découvrirez jeudi. Et c'est le final de Léo Mattei et de cette 6e saison. Merci Mathilde d'avoir été avec nous.
Eh bien, merci à vous et bon film.
À bientôt.
C'est aujourd'hui que s'ouvre à Marseille le procès que la France entière attend. Celui de Romain Robert, surnommé David par ses victimes. Il est l'homme qui avait enlevé et séquestré la fille du commandant Léo Mattei. Il avait également défrayé la chronique il y a quelques mois avec le meurtre d'un jeune garçon de 12 ans. C'est aux côtés de son père qu'Héloïse Mattei va devoir témoigner au procès de celui qui fut son bourreau pendant 8 ans.
Mais s'il vous plaît, Héloïse,
David restera toujours pour moi l'homme qui a volé mon enfance.
Encore une question, s'il
vous plaît. Non, ça suffit. Laissez-la tranquille.
Bon, allez, arrêtez là, avec vos questions là. Laissez-nous tranquille, ok?
Ça va aller, Héloïse. Hein, tu n'oublies pas tout ce qu'on a travaillé pendant nos séances, d'accord? Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Si tu craques, c'est lui qui gagne.
Le docteur Favre a raison. La seule façon de prouver que t'es plus sous son emprise, c'est de l'affronter.
Je sais.
Et on va donc se retrouver dans un tout petit instant, puisqu'on va parler d'un si grand soleil. Hein. La série fait des cartons, hein, sur France 2 à 20h45 du lundi au vendredi. Et nous recevrons le couple Bastide, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Mel Mieton et Jérémy Binster. Le divorce doit être prononcé cette semaine, mais qu'en sera-t-il? Des rebondissements peut-être nous attendent encore, on va en parler avec eux dans un instant. Et puis des scoops, hein, le futur de Plus belle la vie qui fête ses 15 ans cette année. Le producteur Sébastien Charby viendra nous livrer les premiers projets pour fêter ses 15 ans en beauté. Alors surtout, ne bougez pas, on revient dans 3 minutes, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, coup de cœur télé dans Chut, on écoute la télé, évidemment, un si grand soleil, on en parle très souvent, hein, dans notre émission. Et on a des couples mythiques, hein, je dirais même les amants terribles maintenant. Enfin, on va voir, il va s'en passer tellement cette semaine. Ne manquez pas la série, je peux vous dire, car Jérémy Binster et Maëlle Mieton nous en promettent de belles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est le divorce, ça y est, hein, officiellement, cette semaine, alors cette mercredi même, précisément à l'antenne. Mais peut-être que le couple n'a pas fini de nous réserver de sacrées surprises. Alors, on a vu l'arche, hein, autour de Benoît Michel, à la Fauté, enfin bref, on a vu un petit peu tout ça avec Maxime. Et il faut dire que ça n'a pas été de tout repos ces dernières semaines.
Déjà, je viens, elle n'a pas fauté, elle s'est détendue.
Ouais, elle s'est détendue, c'est vrai.
C'est important de le dire.
Oui, mais vous étiez pas divorcé encore.
On était séparés. Et moi, j'avais une vie affective de mon côté. C'est un peu normal qu'elle ait une vie affective de son côté. Moi, je suis pour l'égalité. Donc, non, c'est bien qu'elle l'ait fait.
Je la trouve beaucoup plus amuse.
Mais dis donc, t'as fait tes choix, surtout, oui. Alors, effectivement, on avait deux vies. Et on était libre de faire ce qu'on voulait, hein? Voilà. Mmh, très bien.
Bon, en tout cas, Un si grand soleil, c'est une belle histoire qui dure maintenant. Ben là, on est rendu à pas loin de 150 épisodes, mine de rien. Vous êtes déjà en tournage, on va approcher les 200 d'ici quelques semaines. C'est une aventure qui est arrivée dans votre vie à tous les deux. C'est un cadeau, mine de rien, une série quotidienne comme ça, une exposition pareille, Maëlle.
Oui, C'est un joli cadeau parce que c'est une très belle aventure avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles personnalités, des grands professionnels et puis surtout une occasion d'expérimenter, vraiment, pour les comédiens, pour tout le monde, pour les équipes.
Jérémy ?
Oui, un cadeau pas prévu, un cadeau inattendu et puis un grand plaisir d'être sur le plateau tous les jours. Et voilà, comme le disait Maëlle, on a une belle bande de comédiens, on a une belle bande de techniciens aussi et à la chaîne aussi et à la prod. C'est vrai qu'on a une... On a une belle équipe, donc de travailler dans ces conditions, c'est très chouette. Et puis on a été gâtés, Maëlle et moi, sur nos personnages respectifs. C'est aussi ça qui est important, parce qu'on fait pas un bon acteur sans un bon rôle. Et il faut avoir un bon rôle pour être bon. Donc pour l'instant, on est gâtés, il faut que ça continue.
Alors Maëlle, directrice du zoo, c'est le personnage d'Alice, hein, bien évidemment. Alors vous êtes gâtée au niveau de vos enfants aussi. On a vu toute une palette d'émotions que nous a offert Mélanie Robert, hein, Manon, ces dernières semaines également. Vous en avez fait voir, hein, quand même, hein, tous les deux.
Oui, c'est l'adolescence, mais une bonne adolescence, là. Puis Mélanie est une comédienne extra, quoi, vraiment.
Elle est partie, hein, ça doit envoyer, hein, quand même, hein, sur les scènes.
Ouais, elle a beaucoup de talent, puis elle travaille bien, vraiment.
Et c'est vrai que chez les Bastides, on a du caractère. C'est ce que je voulais dire, du caractère, du talent aussi, elles en ont, les filles. Que ce soit, on pense à Christelle Labaude aussi, à Auguste, qui est super, Yvon, et puis à la petite Mélanie Robert. C'est vrai qu'on a tous du caractère, et c'est ce qui fait que les cuirs s'assemblent bien aussi. Voilà. Ça frotte de temps en temps, mais ça s'assemble, et ça finit par se comprendre. Donc ça, c'est super agréable.
Bon, ça va frotter sérieusement donc cette semaine, puisque c'est le divorce officiel. Voilà, donc le couple Bastide se sépare officiellement. Du moins, c'est ce qu'ils vont certainement nous faire croire ou nous faire voir. Et on verra si, parce que c'est Grand Soleil, c'est toujours des rebondissements en cascade.
Mais je tiens à préciser une chose, je garde le chien, que ce soit bien clair.
Quand même, tu gardes le labrador donc.
Que ce soit bien clair, Chocolat reste avec moi, sinon je ne divorce pas, voilà.
Le zoo aussi, parce que Maëlle, tu fais beaucoup de scènes pour le coup de zoo. Alors on sait que le zoo, les bureaux sont reconstitués, hein, sur le studio, mais il y a des scènes au vrai zoo, hein, aussi de Montpellier qui sont tournées.
Oui, c'est un bel espace en fait, le zoo de Montpellier, qui est municipal, gratuit encore. De fait, c'est pas un zoo. J'aime pas trop ça en fait. C'est pour ça que je vais vous dire ça entre guillemets à spectacle. Voilà, c'est pas un endroit d'exploitation où on fait du chiffre. Donc il est libre d'accès, c'est très très beau, on peut se balader dans les allées. Alors les animaux, on les voit ou pas, de fait, parce que on n'efforce pas à être là pour faire du spectacle. Puis les soigneurs et les vétérinaires qui y travaillent, il y a un vrai programme de sauvegarde des espèces. C'est ça qui est très intéressant. Donc moi à la base, j'aimais pas trop ça me faisait un peu stresser. Mais comme le lieu est très bien géré et magnifique, bon, c'est un plaisir.
Quel est votre plus beau souvenir de tournage là maintenant sur ces 150 épisodes ?
Moi, je le vois plutôt comme un tout, comme un entier. C'est vrai que tous les jours, c'est agréable. On tourne énormément, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de séquences à défendre, beaucoup de scènes à jouer, et à chaque fois, c'est un plaisir, que ce soit avec Maëlle, avec les enfants, avec Christelle, voilà, avec toute l'équipe, c'est super. Et je retirerais une sensation générale plus qu'une scène en particulier. Voilà.
Tout, c'est toujours très, très, très bien passé entre nous, avec la production, avec tout le monde. Donc. Le plus beau souvenir, c'est celui-là encore, jusque-là.
C'est le challenge, en fait. C'est le projet en lui-même qui se passe très bien. Donc, donc du coup, on n'arrive pas à ressortir une scène plus qu'une autre avec quelqu'un. C'est vraiment que c'est un tout et c'est un projet qu'on a mené tous ensemble, puisqu'on est tous à la création de ce programme. Donc, c'est bien la prod, la chaîne, les comédiens, les techniciens. C'est qu'on était là le premier jour. Et du coup, on se sent tous très soudés et on a développé un esprit d'équipe, de troupe, comme au théâtre presque.
Alors, est-ce que ça laisse le temps pour faire d'autres projets ? Jérémy, on s'était vu pour son premier film, La Vie Pure. Maëlle, est-ce que toi, ça t'a permis de t'évader un peu et de faire téléfilm, du théâtre, du cinéma ?
C'est plutôt que moi, j'avais déjà une vie bien remplie.
Ça s'est pas arrangé.
De fait, ça s'est pas arrangé du tout. Mais c'est un grand plaisir. Hein. Mais ça rajoute beaucoup, 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 beaucoup de... C'est très chronophage, la série, là, sur le planning. Mais c'est un grand plaisir. Ça peut être pas de souci, mais fatigue, ouais. Parce qu'à côté, j'ai une compagnie de théâtre. J'ai des projets avec les orchestres. Toulouse, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas loin. Avec l'orchestre de Toulouse, souvent, je vais les voir aussi. Bah, ça laisse pas beaucoup de temps, mais on le prend. Je sais pas comment on y arrive, mais on le fait. On
s'organise. Et Jérémy, qui prépare son deuxième long métrage, non loin de notre région de Nouvelle-Aquitaine, en Vendée.
Exactement.
En hommage à ton arrière-grand-père.
Exactement. Louis Buton, mon arrière-grand-père, qui a traversé le XXe siècle, qui a fait la première guerre 14-18, la seconde, qui a été déporté en tant que résistant. Il a fait Buchenwald, Mauthausen et Ster. Et j'ai toujours eu dans l'idée d'adapter ce roman, parce qu'il a écrit un roman en revenant des camps. Et j'ai toujours eu dans l'idée de l'adapter, mais de m'adresser avec cette histoire à une jeunesse. Donc de faire un film qui se passe en 2020, et surtout pas un film en noir et blanc, surtout pas un film trop proche du documentaire, mais un film romancé qui puisse s'adresser à une certaine jeunesse, puisque j'ai lu il y a pas très longtemps que 21% des 18-24 ans en France pensaient que la Shoah n'avait pas existé. Ça m'a un peu fait froid dans le dos. Donc je me dis qu'il y a une nécessité de discuter de ça, de passer un message et d'informer, mais avec des codes d'aujourd'hui, avec des musiques d'aujourd'hui, des cadres, avec un film qui s'adresserait vraiment à une certaine jeunesse, puisque les gens de notre génération ou un peu plus vieux forcément sont au courant et forcément savent que ça existait malheureusement. Donc voilà, donc c'est le projet, je suis en écriture. J'écris avec David Holofen en ce moment et ça se passe très bien. Je suis très content. Donc voilà, c'est en gestation.
On aura l'occasion d'en reparler longuement, à mon avis. C'est pas fini cette histoire. Merci à tous les deux d'être venus. Les Bastides vous réservent beaucoup de surprises cette semaine, je peux vous le dire. Alors ne ratez pas le dénouement de l'histoire avec Maxime. Ne ratez pas ce divorce officiel qui nous attend mercredi. Bref, un si grand soleil, c'est du lundi au vendredi et c'est à 20h40 sur France 2. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup, merci à toi. Merci à vous.
Arthur, commence pas à te faire des films.
Ce serait pas trop bien qu'ils se remettent ensemble? T'en es pas d'accord?
Et d'ailleurs, quand est-ce que vous allez voir les flics?
Je vais y aller aujourd'hui, il faut battre le fer quand il est chaud.
Je suis pas complètement idiote, tu vois bien qu'il y a un souci. Vous êtes à peine adressé la parole tout le week-end.
Putain, mais les arnaqueurs, ça me rend fou, moi.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
T'inquiète.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Allez, on va continuer à parler de Plus belle la vie dans Chut, on écoute la télé. Hein. On le fait, on se donne rendez-vous deux fois par an à peu près avec son producteur Sébastien Charbic avec nous. Salut Sébastien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, je suis très heureux de t'accueillir. Coup de théâtre dans Plus belle la vie, tu nous en avais annoncé de bien belles en septembre avec un retour Tony Truant. Et là, le retour, on l'a vu, hein. Flavie Péan qui a fait son grand retour dans la série.
Ouais, difficile de passer au travers. Et puis après, ce qui était difficile à l'époque, c'était de dire est-ce que c'est Victoire ou quelqu'un d'autre qui revient, puisque le but c'était de jouer sur la double identité. Donc voilà, ça va poser beaucoup de questions sur deux autres personnages qu'on aime bien depuis longtemps. Et puis ça a permis de les réactiver, c'est Sacha et évidemment Luna.
Alors Luna, à qui il risque d'arriver bien des misères dans les épisodes qui viennent, mais ça vous allez le découvrir. Des thématiques qui sont au plus proche du public, évidemment, ça c'est ça qui est important, je crois, pour toi de traiter dans Plus belle la vie, c'est d'être au plus proche des problématiques des gens.
Ouais, d'être très proche de la vie des gens, d'être en phase avec la société, puis avec une dose de rocambolesque, parce que dans l'histoire qu'on a en ce moment entre Luna et Sacha et Victoire, on est dans quelque chose de rocambolesque, mais il y a quand même le fond de sentimental qui est-ce que on reste pour toujours amoureux de son premier amour, quoi. Donc voilà, donc on essaye de se raccrocher à une réalité de la vie quotidienne des gens et avec des sujets de société qui vont encore arriver cette année.
Alors, il y avait effectivement en septembre les questions qui se posaient avec l'arrivée d'un si grand soleil. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est rassuré quand on voit aujourd'hui les audiences qui non seulement sont restées largement ce qu'elles étaient, mais aujourd'hui de voir un si grand soleil qui cartonne en même temps. Comme quoi, aujourd'hui, les Français aiment la fiction quotidienne, aiment le feuilleton quotidien.
Complètement, mais la question, moi je l'ai toujours dit, la question elle se pose pas entre ce que les gens peuvent regarder ou pas plusieurs feuilletons. Nous, ce qui a changé en septembre, c'est pas l'arrivée d'un si grand soleil, c'est le changement d'horaire. Et c'était plutôt ça notre sujet, c'est-à-dire de se retrouver diffusé en face d'un journal télévisé qui a eu une actualité qui était très conséquente pendant toute la fin de l'année. Donc c'est là où il fallait qu'on invente des histoires, parce que les gens aujourd'hui, ils choisissent pas entre la fin du JT et nous, ils choisissent entre pendant le JT et nous. Donc il fallait qu'on se réinvente ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a mis en place là. Et puis je pense qu'on a encore pas mal de nouveautés sur les 6-8 prochains mois qui peuvent répondre à ça. Les deux autres choses, c'est qu'on a une chance sur Plus belle la vie, c'est que on est accompagné par France Télé sur le replay pour que les gens qui décident de regarder le journal puissent en même temps regarder le replay de la série, ce qui permet de encore aujourd'hui être à des scores aux alentours de 4 millions. Donc ça, c'est très très bien. Ce à quoi il faut ajouter toujours ce fameux piratage. On va, j'espère, réussir à résorber cette année.
Oui, en essayant de proposer des épisodes deux jours en avance pour ceux qui voudraient les voir.
Hein. Oui, mais légalement, puisque aujourd'hui, les sites sur lesquels les gens regardent la série sont des sites qui ne sont pas légaux et ce qui ne compte pas dans les audiences de Plus belle la vie, ce qui est toujours un peu dommage parce que on fait ça aussi pour savoir combien de gens les regardent. Donc à nous de faire une proposition légale pour que les gens puissent continuer à regarder deux jours en avance comme ils le sentent.
Alors Sébastien, je suppose que évidemment ça se prépare en grande trombe, c'est les 15 ans de la série, puisque le 30 août 2019, ça fera 15 ans que Plus belle la vie est à l'antenne sans discontinuer.
Ouais. C'est vrai, on y travaille, c'est pas comme si j'avais toutes les réponses, mais on y travaille, on a un prime qui est en préparation aux alentours de cette période-là, on a une programmation qu'on vous souhaiterait événementielle sur la semaine des 15 ans, et puis on a quelques petites surprises que je ne vais pas tout égrener ici.
Alors, est-ce qu'on peut déjà dire un mot sur ce qui va arriver à Luna?
Alors, ce qui va arriver à Luna et qui n'est pas secret, c'est qu'elle va se retrouver privée de l'usage de ses jambes. Donc voilà, je ne vais pas vous dire exactement comment, pourquoi, je ne vais pas vous dire quelles conséquences ça a sur sa relation avec Sacha Victoire, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Mais je peux vous dire qu'on a vu les premières images et honnêtement c'est très touchant et il y a des moments où c'est très drôle. Ce qu'on avait tous beaucoup aimé dans l'équipe, c'était le film Patient qui était sur le handicap,
mais
qui
encore malade,
de grand corps malade, mais qui était jamais juste une histoire uniquement mélodramatique. On avait envie d'avoir de l'humour et de l'émotion et je crois que sur les premières images c'est vraiment réussi. Donc à tous les gens qui nous ont dit mais vous rendez pas compte, c'est déprimant de mettre un personnage, non, en fait, c'est pas déprimant, c'est la vie. Et comme Luna est un personnage plein de vie, en fait, c'est plein de surprises, ces situations-là.
Et c'est ça, c'est justement, c'est ça, plus belle la vie. C'est aujourd'hui montrer les choses qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment.
Ouais, et puis, ça, toutes les questions qui se posent, si demain on est en fauteuil, comment notre relation avec nos amis change, comment nos relations sentimentales changent, comment nos parents changent de regard sur nous, parce qu'il y a un moment où on redevient un enfant dans l'œil de nos parents, alors à 40 ans, bah, c'est une autre histoire, quoi. Donc vraiment, il y a des scènes, mais qui sont, moi, rien que d'en parler, j'en ai encore les frissons, donc j'espère que les gens y seront sensibles.
On a hâte de voir ça. Toi qui as été instigateur du retour de Dounia, Cossins qui a été instigateur du retour de Flavie, il se murmure que Aurélie Vanek ferait son retour aussi dans la série. Est-ce que Ninon Chaumette va revenir?
Alors,
peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Non, l'histoire est validée. Aurélie nous a donné son accord, donc il reste quelques incertitudes sur la faisabilité, mais tout le monde souhaite que ça se fasse. Donc voilà. Et puis, je pense qu'on a une histoire qui est super chouette. C'est toujours la même chose. Faire revenir les gens juste pour les faire revenir et les enterrer, ça n'a aucun intérêt. Le retour de Dounia, c'était parce que ça permettait de mettre une fin à l'enchanteur. Je pense que c'était une bonne idée de la voir à ce moment-là. Le retour de Flavie, c'était une manière de redynamiser les personnages de Sacha et de Luna, donc je pense que c'était une bonne occasion. Et là, je pense qu'on a une histoire vraiment très chouette qui justifiera le retour d'Aurélie, et j'espère qu'on arrivera à le faire.
Écoute, on espère voir ces surprises très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? 15 ans de plus comme ça?
Ouais, et puis 15 ans de surprise en fait, parce que j'espère qu'on a remis de la surprise comme ça l'a toujours été dans Plus belle la vie. J'espère qu'on sera capable de renouveler ces surprises, de faire râler les gens parfois parce qu'on fait pas ce qu'ils veulent, mais du coup de les surprendre comme dans une histoire qui dure et puis qui est jolie.
Écoute, le rendez-vous est pris, hein. Je vous rappelle, c'est 20h20 maintenant, nouvel horaire, juste avant Ainsi Grand Soleil. Vous pouvez regarder les deux séries sans aucun problème, l'une après l'autre. Merci à toi.
Exactement, merci à vous. Et puis, bah, rendez-vous sur France 3, très vite.
Bonjour.
Bonjour. Ah oui, je suis vraiment désolée. Bon, d'habitude, j'ai toujours des sacs, mais là, j'ai oublié.
Il y a des distributeurs de canisacs un peu plus loin, Madame Marcy.
Oui, mais ils sont toujours vides, les distributeurs de la mairie.
Bah, il faut anticiper, Madame Marcy. Comme avec les devoirs. Comment vous disiez déjà? Ah oui, ne jamais attendre la veille pour préparer un contrôle.
Oui, enfin...
Je vais être obligé de vous verbaliser.
Non mais, ça va, j'ai compris l'avertissement, vous pourriez être un peu plus conciliant.
Comme la fois avec mon commentaire de texte, là, quand vous m'avez enlevé 3 points pour l'orthographe.
Non mais ça, c'était pour votre bien.
Hein?
Pour vous faire comprendre que c'est très important d'écrire sans faire des fautes d'orthographe.
Eh ben moi, c'est pour bien vous faire comprendre que c'est très important de ramasser les déjections de son chien.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, eh bien nous aurons le plaisir de recevoir l'humoriste Verino qui sera notre invité, qui nous dévoilera évidemment tous ses projets, surtout sa tournée hein, en cours en ce moment. Et puis nous aurons également le plaisir de recevoir Sophia Issaidi et également les auteurs de la série Kepler qui débarque sur France 2. Rendez-vous à ne pas manquer bien évidemment. Xavier Deluc sera également avec nous, Martin Bernier, section de recherche. C'est le grand retour de la série pour une 13e saison inédite, eh bien nous aurons le plaisir de recevoir donc Xavier pour ce lancement. Et puis Youssef Hadji également sera avec nous à l'occasion de la sortie du film Damien veut changer le monde. Un rendez-vous évidemment à ne pas manquer, ça sera notre coup de cœur ciné également la semaine prochaine.
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine pour Chute en écoute la télé, la quotidienne sur Zoom Radio à 10h45 et 12h30. Et puis évidemment, je vous donne rendez-vous pour la grande hebdo dès lundi prochain à 18h. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et une très belle soirée évidemment à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chute, on écoute la télé avec votre jardinerie Astvert, votre spécialiste jardin, alimentation animale et motoculture à Saint-Astier.
Chute, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Dordogne sur lucien-georgelin.com.